le prophète. Je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître ?
Je suis un marginal, un anarchiste au Pacharia, et si vous me plaît, je ne peux pas dire ça. Marginal, mais...
Janine Marc Peset, Michel-Alain Barjou, Alain Poulange, Serge Gainsbourg et Léo Ferré.
Ni Dieu, ni maître.
Dr. Jekyll, Mr. Hyde, positif, négatif, image symbolique de l'homme en état de dédoublement, le contraste à l'état de pureté ambiguë, la lutte du monstre bicéphale, le créateur et son double, l'artiste et le mec, le maître et l'esclave de ses fantasmes, Dieu voyant diable dans son miroir. Gainsbourg, Ferré, figure de proue de la chanson, s'offrant au vent de la renommée, provocation et cynisme à découvert, chantant tout ce qu'il pense pour mieux penser tout ce qui les blesse.
T'as qu'à la voir, la frime, à ton lit, le matin, quand tu te prends pour qui, quand tu te trouves bien. T'as qu'à la voir, la frime, au milieu de la rue, lorsque tu te regardes au fond d'une vitrine. Tu te prends pour qui ? T'as qu'à la voir, la frime, sur ta moto d'un soir, quand tu vas à Rungis pour te vendre pas cher à la mort qui radine avec son grand panier. T'as qu'à la voir, la frime, alors tu ressuscites avec les yeux glacés et tu te prends pour qui ? T'as qu'à la voir, la frime. Coupe à cœur, de peur de rien avoir, qu'un semblant de poids devant l'éternité, qui ne dure qu'un temps, le temps de te laver et d'aller te farcir un morceau de ton temps. De ce temps qui te reste à glander des soucis, comme les fleurs pareilles aux fleurs de tes 20 ans. T'as qu'à la voir, la frime. Et ça ne coûte rien. T'as qu'à la voir, la frime. Qui se met dans ton lit, quand tu te prends pour qui, quand tu te trouves bien, t'as qu'à la voir, la frime, au milieu de la nuit, lorsque tu la regardes, quand ça vient de finir, quand elle se prend pour qui, t'as qu'à la voir, la frime, en sortant de l'hôtel, où t'as fumé qu'une clope, qu'on t'a vendu pas cher. Quand la mort te fait jouir, rien qu'à y respirer, t'as qu'à la voir, la frime, alors Amsterdam, au bras d'un vieux pavot, avec les yeux bridés. T'as qu'à la voir, la frime, au creux de ta psycho, quand tu te piques, on dit, d'outrepasser un marais galaxique où l'univers pavé te reprend dans ses chiffres et te montre du doigt dans une statistique, c'est le moins qu'on te doit. te montrer la frime. Et toi, tu ne vois plus rien.
La frime. Car pour vivre en accord avec une certaine idée de la vérité, il ne faut surtout pas craindre de souligner et d'en rajouter. Il faut passer outre les cicatrices ouvertes à jamais, puiser la force dans ses recoins les plus secrets et se masquer pour ne pas se laisser envahir par les autres, leurs contradictions, leurs conventions, leurs comment et surtout leurs pourquoi.
Pourquoi ? Ah ben, pourquoi ? Parce que je pensais avoir un physique qui était aux antipodes de la chanson de charme. Voilà. Moi aussi, pour des motifs personnels, ça, des motifs secrets.
Et la misogynie dont vous faisiez montre à un certain moment, c'était aussi pour des motifs secrets personnels?
Oui. Des déceptions. Déceptions amoureuses, mais. Oh, mais ça date, ça, oh là là.
Ça date?
Bah oui, ça fait 8 ans que je suis là.
Même dans les dernières chansons, on retrouve des situations d'hommes battus ou vaincus par les femmes. Je pense à Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Ah, je regrette, le Dr. Jekyll n'est pas une victime.
Il se venge.
Il se venge, il devient mauvais.
Il devient mauvais. Et c'est réellement le vrai Serge Gainsbourg qui apparaît à travers ces chansons où moi j'avais l'impression que derrière la misogynie, il y avait un certain romantisme qui se dégageait. Vous croyez à l'amour fou?
Oui, mais amour fou temporaire.
Gainsbourg affiche ses blessures, Ferré affirme ses refus, pour l'un et l'autre, tentative de définition de la liberté.
C'est passé dans le refus qu'on fait les choses qui peuvent inquiéter les gens parce qu'ils ne comprennent pas tout de suite, et qu'en définitive, après, on se dit, mais, ah oui, au fond, il avait raison 50 ans avant les autres, oui. Vous savez, je crois que le vrai sentiment de liberté, moi, je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé, je ne peux pas le dire, mais je pense que c'est comme ça, c'est le plus grand sentiment de la liberté, c'est en prison qu'on va avoir. J'ai parlé à un type qui avait fait de la prison, je lui ai dit ça, et il m'a dit, t'as raison, oui. En prison, je me sentais vraiment libre. Parce que, si vous voyez, il pensait à ça tout le temps. Et les gens ne savent pas qu'ils sont libres. Les gens à Paris qui sortent, qui vont travailler, ils croient être libres, ils ne le sont pas libres. Voilà. Moi, je suis libre parce que, avec le métier que je fais, quoi. Vous savez, les gens que vous agacez, ils font tout pour que vous les agaciez. Ah, les gens, il ne faut pas vivre avec des intellectuels. Ah non, je dis à la maison, lorsqu'il y a quelqu'un qui sait qui était Villon ou Rudebeuf, ou qui donc, ah, pas moi, l'autre est amont, ça suffit à la maison, parce qu'à l'occasion, il peut raconter, apprendre aux gens à la maison les choses. Mais si vous savez qui est l'autre est amont, si la personne qui vit avec vous, c'est qui est l'autre est amont, c'est là, c'est à ce moment-là que commence vraisemblablement la guerre. Voilà.
Ses mains bonnes à tout. Même à tenir des armes dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien. Ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher, les mains de l'oppression. Regarde-la gémir sur la gueule des gens, avec les yeux fardés d'horaires et de rêves. Regarde-la se taire aux gorges du printemps, avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour, et que l'on dit braqué sur les chiffres et la haine. Ces choses défendues, vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde-la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier dans les couloirs glacés de la nuit conseillère et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde-la flâner dans les yeux de tes copains sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour et que l'on dit braqués sur les chiffres et la haine. Ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression.
Madame la misère, écoutez le vacarme que font vos gens, le dos voûté, la langue pâle. Ils sont assoiffés, ils se saoulent de larmes, quand ils ne pleurent plus de crème, sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des suppliciés, au ventre translucide, qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois, régler son compte à Monseigneur éphéméride, qui a pris leur jeunesse et l'a mise en séride. Quand il ne leur restait que ça. Madame la misère, écoutez le tumulte qui monte des bas-fonds comme un dernier convoi, traînant des mots d'amour, avalant des insultes et tenant par la main leurs colères adultes afin de ne les perdre pas. Ce sont des enragés qui dérangent l'histoire et qui mettent du sang sur les chiffres parfois, comme si l'on devait toucher du doigt pour croire qu'un peuple heureux autant tout seul dans sa mangeoire vaut bien une tête de roi. Madame la misère, écoutez le silence qui entoure le lit des faits des magistrats. Le code de la peur se rime avec potence, il suffit de trouver quelques pendus d'avant.
En 1988, en mai 88, au TLP de Jazé, Madame la Misère, Léo Ferré, Benoît Misère, c'est le titre de son roman à tendance autobiographique. Léo Ferré donc a délibérément accepté de déranger, de grincer dans un monde qui se rêve sans aucune aspérité. Radioscopé en janvier 69, l'homme public raconte son regard sur le regard des autres.
Éluard disait des peintres qu'ils donnent à voir. Louis Aragon affirme, Léo Ferré me donne à rêver. Vous êtes un poète qui écrit directement ses poèmes suivant les lois d'un genre poétique. Vous avez 60 ans, vous êtes plus que jamais anarchiste et toujours en bonne santé. Léo Ferré, vous pouvez être agaçant. Êtes-vous agacé de me l'entendre dire?
Non, mais si vous permettez, je vais vous dire une chose. C'est que moi, je suis né en 1916, j'ai donc 52 ans, j'ai pas 60 ans.
Pardon.
Non, mais remarquez que vous savez, le
point... Non, mais comme vous avez rectifié, tout est parfait.
Oui. Quand on me demande l'âge que j'ai dit 10 000 ans ou 3 ans. Au fond, je n'ai pas mon âge. Je me refuse à avoir...
Est-ce que ça vous agace de dire que vous êtes parfois agaçant?
Mais je ne suis pas agaçant, vous savez. C'est ça le problème. C'est que je ne suis pas agaçant. Expliquez-moi je voudrais que vous me disiez comment je suis agaçant.
C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, vous allez tellement loin dans vos chansons que vous pouvez heurter certaines bonnes consciences. Enfin, je les appelle comme ça, moi.
Oui, les bonnes consciences décorées, ça, je m'en fous, vous comprenez. Moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je dis ce que je pense, et plutôt, vous l'avez dit tout à l'heure, je chante ce que je pense. Et je fais plaisir à des tas de gens. Maintenant, si les gens à qui je ne fais pas plaisir, mais tant pis, vous comprenez, ce sont des gens qui ne sont pas dans mon cycle, voilà.
Léo Ferré, vous avez dit « la société est bien croulante, l'argent pourrit tout et la bourgeoisie est haïssable ».
La bourgeoisie, c'est plus grave que ça, la bourgeoisie tue, enfin, d'autres choses. La bourgeoisie haïssable, il n'y a pas que la bourgeoisie qui est haïssable. Les bourgeois, et singulièrement en France, tuent. C'est la raison pour laquelle, s'il y a un jour, si nous devons être un jour un pays socialiste, nous serons le dernier. Nous ne verrons pas chez nous le socialisme.
Cet argent que vous condamnez, Léo Ferré, vous lui faites tout de même certaines grâces.
Mais non, je ne fais pas de grâce. Ça, c'est une question. C'est comme l'autre jour, j'étais avec Brassens et Brel. On discutait et on demandait à Brassens, bah, vous avez de l'argent, vous gagnez de l'argent. Et Brassens a dit, eh bien, évidemment, de toute façon, nous n'exploitons personne. N'est-ce pas ? L'argent que nous gagnons, c'est toujours, la plupart du temps, un cadeau qu'on nous fait. C'est-à-dire que les gens, vous savez que nous sommes des gens publics. Bon, les gens rentrent dans un théâtre, ils payent, ils donnent de l'argent pour venir nous voir d'abord, avant de nous entendre chanter. Une des raisons pour lesquelles on nous dit que nous sommes des gens publics. Vous savez, moi, quand il m'arrive de rencontrer dans la rue des filles dites publiques, eh bien, elles ne me font jamais l'article quand elles m'ont reconnu. Alors, j'ai longtemps cherché la raison, et j'ai compris, c'est que je fais un peu le même métier qu'elles, n'est-ce pas ? Et Brel a été d'accord avec moi, il m'a dit, oui, et souvent, ce sont des artistes, et nous sommes des putains. Parce qu'au fond, je crois qu'il y a un pas à passer pour les femmes. C'est une chose grave, moi ça ne me regarde pas. Les femmes comme ça vendent leur corps, mais nous, qu'est-ce que nous vendons ? Nous vendons une partie de notre corps, c'est-à-dire d'abord la voix, n'est-ce pas ? Et puis nous nous montrons. Vous savez qu'il y a des gens qui sont peut-être pas très bien équilibrés, ou que nous penserions plus équilibrés qu'ils ne le sont, qui viennent nous voir après le tour de chant, pour moi, le rideau baissé, je suis un homme comme les autres. Eh bien, pour des gens, je ne suis pas un homme comme les autres. Ils viennent me toucher. Je ne vais pas vous donner des détails très très précis parce que ça n'est pas possible de raconter ça. Mais il y a des choses très... Et ça me gêne beaucoup. Et de toute façon, donc, nous sommes un peu des prostituées. Hein.
Mon opium, ma cocaïne. Es-tu venu d'extrêmement orient ou bien d'un marché perversant?
C'était au Casino de Paris en octobre 1985. Gainsbourg, déjà Gainsbar, sans Mickey Mouse et sa Lady Heroine. Provocation grivoise, au dire de l'auteur classieuse à souhait, le sujet le plus trivial qui soit, écrit avec talent, car ce n'est pas une surprise. Serge Gainsbourg ne cache rien, là, en revanche, de ses poétiques ambitions et de ses références artistiques.
Le plus grand, c'était Baudelaire. Baudelaire. Il y a quelque chose qui est absolument mal connu, qui est le journal de l'année de la peste, de Daniel Defoe. Tout le monde pense que Daniel Defoe a écrit... Bon, Robin se creuserait, c'est parfait, mais il a écrit le journal de la peste. Et c'est dans l'histoire de la littérature le premier... constat journalistique. Ensuite, Rimbaud. Rimbaud, on en reviendra toujours à Rimbaud parce que je voudrais l'égaler, j'y arrive pas. Peut-être j'y arrive sans en prendre conscience. Mais je veux l'approcher, je veux le retrouver en Abyssinie, je vais retrouver Rimbaud. La poésie, dans son état pur, n'a pas besoin d'un apport musical. C'est là où ça me fait chier. Parce que j'aime la musique. Eh oui. pourquoi pas? Nous sommes au XXe siècle. Pourquoi ne ferions-nous pas d'un art mineur un art majeur? Je crois que les arts mineurs sont en train de reculer les arts majeurs parce que nous n'avons plus de puissance. J'ai été initié à la peinture et à l'architecture. Alors je parle d'art mineur parce que les arts mineurs sont directement perceptibles. Il n'y a pas besoin d'initiation. Or, je crois profondément à l'initiation. Je pense que il n'y a plus de ni de maître ni de maîtrise. J'ai été initié, donc je peux en parler. Initié par de grands maîtres.
Arthur Rimbaud, bien sûr, mise en musique par Léo Ferré, vous l'avez reconnu, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Voici l'heure de notre deuxième épisode de notre feuilleton musical estival de Sac et de Cordes, un récit radiophonique diffusé le 5 février 1951 à 20h30 sur le Poste Parisien dans le cadre des Lundis de Paris. Une émission jamais réécoutée depuis et pourtant de Sac et de Cordes est un récit inédit écrit par Madeleine Rabereau et Léo Ferré avec, s'il vous plaît, Jean Gabin, le récitant, Leïla Ben Sedira de l'Opéra Comique, Marek Sliven de l'Opéra Comique également, Claire Leclerc, Suzanne Girard, Léo Noël, les frères Jacques, les chœurs de Raymond Saint-Paul, Roger Glésis, Jean Lemaître, Yves Dechazeau et Christiane Karlov. La musique originale est signée Léo Ferré et l'orchestre de la radiodiffusion française et les chœurs sont sous la direction de l'auteur. Assoiffé d'aventure, l'amoureux déçu, le récitant, se révolter, sent confusément qu'au stade de l'exaspération, la révolte n'y signifie plus rien, mais que poétisée, elle a encore quelques chances de demeurer valable.
Ce soir affreux de Londres où brumait mon souci, apprentiné de la lune, je voulus mettre la terre dans une charrette et l'emmener sous l'autre cieux. Et puis je me suis dit, prends ta peine, bonhomme, prends ta peine et fous-lui une trempe. Regarde-la, elle ne te ressemble déjà plus. Tamise adorée de l'ennui, Tamise tamisée aux misaines lointaines, j'ai vu des bateaux d'aventure qui se déhanchaient de menture. Et je suis parti. Thank you. suis parti sur un de ces bateaux que l'on prend dévotement et qui ont l'air, dans les ports d'aventure, de dormir votre dernier sommeil d'homme terrien. Incorporé, matriculé, dûment fiché. Un jus au large, un réveil imprévu. La prison sur un bateau, c'est la pire de toutes. Parce qu'elle bouge. La mer était ma complice, sans concession, avec sa terreur météorologique et son inviolabilité décourageante. Amante servile d'un quelconque vent d'est irritable et orgueilleux, je l'ai dressée au naufrage. Mais qu'a-t-il donc cet équipage déguisé en concierge d'hôtel? Mais qu'ont-ils donc ce capitaine et leur sextant? Que cherchent-ils dans les étoiles? Quelque raison de déserter leur lassitude? Mais non pas, mon bon ami. Ils cherchent simplement la latitude. Et c'est ça ce qu'ils ont fait de la mer. Une grande carte compartimentée où ils n'ont plus rien à découvrir. Mais ce jour-là vous fit une rencontre capitale. En proue, la grâce d'une femme incluse au beau pré. En poupe, un dragon impénétrable et craint de tous. Au gréement de la toile et encore de la toile cernée de hauts bandes d'azur et d'or. Dans ses flancs, la terreur. C'est ainsi que vous a paru le dernier bateau pirate, Madre de Dios. Épouvantables assassins de l'Atlantique, négriers fous aux torses maculés, vous avez le remords tranquille avec la trique. Et les flottes de l'or qui dorment loin d'Europe, au fond des mers figées par le regret, balancent doucement leurs vergues philanthropes. Pendant que vous songez, noyés de l'aventure, aux ventes que vous n'avez pu violer, les ventres d'or de ces bateaux calmures. Ô marins de la course étoilée de rapine, les galions sont ventrus et vous régnez terriblement dans les mémoires sous-marines.
De sacs et de cordes. À suivre, le troisième épisode, c'est pour demain. Et puisque nous en sommes aux documents inédits, écoutez donc celui-ci.
Je suis snob.